Nous allons lire un extrait de la lettre aux Éphésiens ce matin. Et dès le début de cette lettre, l'apôtre Paul dévoile le projet que Dieu s'est fixé au verset 10 du chapitre 1. Tout réunir, ce qui est dans les cieux et sur la terre, sous la royauté de Christ. Et par la suite, l'apôtre Paul entre dans une prière, il prie que nous puissions comprendre à la fois la puissance de Dieu à l'œuvre dans la résurrection, dans l'ascension, le règne que Jésus exerce. Il prie aussi que les croyants à Éphèse puissent saisir l'espérance, l'héritage qui est accordé à tous ceux qui croient en Jésus. Je vous invite maintenant à lire au chapitre 2, les versets 1 à 10. Vous pouvez le suivre dans les Bibles qui sont devant vous, à la page 1142, si vous le souhaitez. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Des questions de puissance dans les deux parties de ce chapitre 2, dans les versets 1 à 10 et dans les versets suivants, on voit comment cette puissance de Dieu va être à l'œuvre parmi les croyants. Et on peut tout simplement, avant de méditer ces paroles, y réfléchir. À quoi ressemble cette puissance à l'œuvre dans la vie des croyants? L'autre jour, j'étais dans un parc avec les enfants et il y avait deux dames assises et à un moment donné, on a échangé et il s'est révélé qu'elles étaient croyantes. On voyait que la foi était importante pour toutes les deux. C'est d'ailleurs ce qui les liait et elles échangeaient là-dessus. C'était beau de voir que c'était important pour elles. Mais à un moment donné, elles ont utilisé une expression qui m'a laissé un peu songeur ou fait réfléchir. En parlant d'un changement d'église, elles ont dit qu'elles étaient passées à la vitesse supérieure. Et je ne leur ai pas posé la question, je n'ai pas eu le courage de poser la question. Qu'est-ce qu'elles entendent par cette vitesse supérieure? Il est possible que ce soit simplement le sentiment de découvrir davantage. Mais est-ce qu'il y a, de manière générale, une vitesse supérieure, une puissance qu'on peut découvrir, le secret d'une puissance qui nous met en cinquième alors qu'on était en quatrième? Comment est-ce qu'elle va se manifester, cette puissance? Et je crois que, en tout cas, un élément de cette puissance est révélé dans ces versets. Et on va tout simplement le prendre en trois temps. Dans les versets 1 à 3, on verra que nous étions déclarés morts. Dans les versets 4 à 7, rendus vivants. Dans les 8 à 10, en conséquent. Il y aura des conséquences. Déclarés morts, rendus vivants, en conséquent. Déclarés morts. Si vous êtes sur un réseau social, vous connaissez les statuts, en particulier sur Facebook. On va donner son impression sur ce qu'on vit, sur sa journée. Et si vous aviez vécu une mauvaise journée, quel pourrait être le statut le plus sombre ? J'ai tel appareil qui ne fonctionne pas, ma connexion à Internet pose problème, j'arrive pas à trouver un appartement, un logement. Généralement, sur Facebook ou d'autres réseaux, on est assez positif, on n'est pas trop pessimiste. La France a perdu face à l'Allemagne, ça c'est dur. Mais à comparer avec le statut qui nous est donné ici par l'apôtre Paul, c'est rien. Dans les trois premiers versets, il décrit trois manières, notre état sans Christ, et trois manières qui nous dirigeaient. Alors, notre état, le premier mot, c'est le mot mort qu'il utilise, mort. Il y a des mots qui font trembler. Un peu comme si vous alliez chez votre médecin généraliste et vous avez une conversation avec lui. Il a remarqué quelque chose, il n'en est pas sûr, mais en fait, il vous suggère d'aller voir tel spécialiste pour faire des examens supplémentaires. Et le simple mot « spécialiste » fait trembler, n'est-ce pas ? On se demande si ça va être un cancer, quelque chose de grave. Il y a des mots qui font trembler. Et dans le même temps, on peut dire, dans ce cas-là, qu'il y a, dans le fait d'aller voir un spécialiste, l'encouragement de savoir que quelqu'un de compétent va avoir l'œil sur la situation. Et ici, l'apôtre Paul utilise un mot qui fait lui aussi trembler, le mot « mort ». Mais on voit par la suite que ce n'est pas pour laisser les personnes dans la peur. Est-ce qu'il exagère en parlant de mort ? Est-ce que c'est simplement pour nous faire peur et nous tétaniser par cette peur ? On va voir par la suite que c'est tout le contraire qu'il souhaite. Ce n'est pas une peur profonde qui tétanise, mais au contraire, il veut nous pousser à la reconnaissance et à l'action. C'est ce qu'on verra dans les conséquences. Mais peut-être là, en entendant parler de mort, vous pensez à telle ou telle personne autour de vous. Il n'est pas chrétien et vous vous dites « mort », alors que sur un plan athlétique, elle semble persévérante, pleine de force, en bonne santé. Ou alors telle personne qui est très intelligente, raisonnée, elle serait morte. Mais c'est sur un plan spirituel que l'apôtre Paul parle, et c'est sur ce plan-là qu'il nous faut le saisir. Les humains, par défaut, par naissance, sont morts spirituellement, aveugles aux réalités de Dieu, sourds à la voix de son esprit, sans compréhension, sensibilité à l'œuvre de Dieu. Oui, sur un plan spirituel, les êtres humains sont morts. Alors, est-ce que l'apôtre Paul fait référence à certaines cultures, peut-être certaines personnes qui ont été particulièrement cruelles dans l'histoire ? Mais les termes « nous tous » ou « comme les autres » montrent que tout le monde est concerné. Il n'essaie pas de faire peur. Il décrit la réalité humaine dans son ensemble. Et si on devait faire l'autopsie de cette mort-là, qu'est-ce qui l'a causée ? Au verset 1, toujours, on réalise qu'elle est causée par nos fautes, nos péchés, deux termes au pluriel qui décrivent l'ensemble, la variété des offenses que nous commettons vis-à-vis de Dieu. Et l'apôtre Paul veut nous dire ensuite que ce n'est pas un état duquel on sort facilement. On est au clair là-dessus pour une mort physique, mais c'est le cas aussi pour une mort spirituelle. Le lien de la mort est fort, comme une corde à trois brins, comme un câble à trois brins. Au verset 2 et 3, il est question des fautes et des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. En société, comment est-ce qu'on a l'habitude d'expliquer le mal ? Peut-être, si on suit la psychanalyse de Freud, on dira que c'est l'importance du subconscient. Selon la pensée de Rousseau, eh bien, c'est la société qui corrompt l'être humain. Selon la pensée de Pavlov, on parlera de l'influence, du conditionnement. Et la tendance générale, ce sera souvent, n'est-ce pas, de vouloir réduire à l'un ou l'autre de ces éléments. Mais ici, ce que l'apôtre Paul dévoile, c'est que le mal est complexe. Il est à la fois intérieur et extérieur, à la fois passif et actif. Il y a d'abord l'influence de l'environnement sous l'empire de ce monde, le cours de ce monde, verset 2. Qui niera que nous sommes influencés par le monde qui nous entoure? Mais pour la deuxième influence, c'est déjà moins admis. Il est question du prince de l'autorité de l'air, un esprit. C'est intéressant, quand on y réfléchit, on peut voir des tas de films ou des tas de livres qui parlent des esprits mauvais, des démons, etc. Mais si vous parlez de l'existence de Satan, ça fait sourire aujourd'hui. Pour les Éphésiens, son existence, elle ne faisait aucun doute. On le voit, il est mentionné à plusieurs endroits dans la lettre, avec différents noms. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à y croire, nous, aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on l'a trop représenté par un petit homme rouge avec une queue fourchue et... Peut-être, alors qu'il est un esprit, selon ce texte. Peut-être que ça, c'est une partie de la problématique. Mais ici, son influence en tant que leader consiste à pousser les êtres humains à être rebelles vis-à-vis de Christ, de Dieu. Alors que justement, le projet de Dieu, c'est de réunir toute chose et toute personne sous le règne de Christ. Il pousse à la rébellion. Mais ce n'est pas tout. La troisième influence qui nous retient, c'est nous-mêmes. Au verset 3, les désirs de notre chair, les volontés de notre chair et de nos pensées. Alors qu'il est question d'influence, on découvre ici une autre influence qui est intérieure. Sans lui, on n'est pas simplement mort, on est en plus enchaîné avec tous ces éléments. Une remarque sur la chair, il n'est pas question ici d'une vision négative de la sexualité ou encore de la nourriture. On verra par exemple au chapitre 5, versets 3 et 4, qu'il faut au contraire remercier Dieu pour la sexualité, pour la nourriture. Mais chaque fois que quelque chose, et ça peut être la sexualité ou la nourriture, prend ce qui contrôle toutes nos pensées, nos actions, ce qui devient notre maître, alors là, effectivement, c'est ce qui devient notre idole. Le sexe peut le devenir, mais tout comme la colère, l'envie, l'ambition personnelle. Et en entendant parler de cela, on pourrait dire, mais moi je ne me sens pas esclave, je ne me sens pas esclave du tout, je me sens libre, libre de faire ce que je veux. Si on posait la question à quelqu'un qui vous connaît bien, si vous êtes marié à votre conjoint, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il a vues de manière récurrente dans votre vie, dans ma vie, colérique, tendance à vouloir plaire, impatience, manque d'amour? Et même si on étouffe ce genre de remarques, à un moment ou à un autre, ça refait surface. Si on est honnête, le lien est fort. Le troisième constat de l'apôtre Paul, et celui par lequel il termine cette première partie, c'est que nous étions par nature voués à la colère. Colère? Notre colère ou la colère de Dieu? Pour beaucoup, cette affirmation est tout simplement insoutenable. Dieu serait en colère? Ce serait plutôt le contraire, non? On ne devrait pas être en colère contre lui avec tout ce qui se passe dans le monde? Mais c'est bel et bien sa colère contre nous. Une colère qui n'est pas arbitraire, mais elle est raisonnable, basée sur sa sainteté. Pas une colère qui est imprévisible, elle est bel et bien prévisible à cause de sa justice qui devra être rendue. C'est la réponse prévisible, raisonnable d'un Dieu juste et saint à des êtres qui vivent en rébellion vis-à-vis de lui. Et sans lui exprimer la reconnaissance pour la vie qu'ils vivent au quotidien. On dit que les Français sont pessimistes, sceptiques par rapport à la nature humaine. Mais ils sont complètement déclassés par l'apôtre Paul. Et vous connaissez peut-être quelqu'un, un chrétien, qui est optimiste, confiant dans ce que le Seigneur peut faire. Et là encore, à mon avis, complètement déclassé par rapport à l'apôtre Paul. Parce que dans les versets 1 à 7, on voit un formidable changement. Après être descendu dans l'abîme le plus profond pour décrire notre situation, il nous élève au plus haut pour dire la grâce de Dieu à l'œuvre. Rendu vivant dans les versets 4 à 7. Il y a un « mais Dieu » massif dans le verset 4, si vous voulez suivre avec moi. « Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce » par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'amour et la colère ne s'excluent pas. C'est au moment où il a parlé de la colère qu'il décrit l'amour de Dieu, avec ce « mais Dieu ». Et on trouve trois oppositions drastiques à notre état passé. L'apôtre Paul vient d'affirmer que nous étions sous la juste colère de Dieu. Et ici, il dit que nous sommes au bénéfice de sa compassion, littéralement de sa miséricorde. Autrement dit, il nous a épargné sa condamnation. Ensuite, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. Nous qui étions esclaves, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au plus bas de l'échelle sociale, il nous élève au plus haut, au-dessus de tout. Face à la condamnation, il intervient par la miséricorde. Face à la mort, il intervient par la résurrection. Face à l'esclavage, il intervient par le fait de nous faire siéger avec Christ dans les lieux célestes. Et à quoi est due l'intervention? Est-ce qu'il a vu du potentiel chez vous, chez moi? Est-ce qu'il y avait en sommeil, une intelligence spirituelle? La raison ne se trouve pas en nous, elle se trouve en lui. Et l'apôtre Paul l'accentue à quatre reprises. Il est la seule cause du changement. Le premier terme qu'il utilise, c'est la miséricorde. On l'a déjà vu, sa compassion. Mais ensuite, c'est son amour qui est décrit au verset 4. Le troisième, c'est sa grâce au verset 5. Le quatrième, c'est sa bonté au verset 7. Miséricorde, on l'a dit, être épargné du jugement. L'amour, il nous aime alors que nous étions rebelles. Sa grâce, il nous épargne. Et il nous donne un cadeau immérité. Il nous pardonne. Sa bonté, il fait preuve de bonté alors que toutes nos actions méritent une aliénation. Il est intervenu non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Tout vient de lui. Et si on venait à ces trois changements mentionnés plus tôt, on était sous sa colère, nous sommes au bénéfice de sa miséricorde. On était morts, il nous a rendus vivants. On était esclaves, il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Comment est-ce que c'est possible de tels changements? Comment est-ce que c'est possible d'être aussi bas et d'être ensuite aussi haut? Bien, tout vient de l'union à Jésus. Il nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça ne se voit pas en français, mais à chaque fois, les verbes en grec ont un préfixe. Syn, syn, ensemble, avec. On le voit avec un terme comme synchronisation. Certainement, beaucoup d'entre vous avez l'habitude de synchroniser les données sur un ordinateur avec un téléphone portable ou une tablette ou même un agenda sur Google. La différence ici, c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire constamment et qui pourrait avoir plusieurs références. Christ est la seule référence. Et c'est une synchronisation qui a eu lieu une fois pour toutes L'apôtre Paul priait au chapitre 1, dans les versets 18 à 21, que nous puissions comprendre la puissance qui a été à l'œuvre dans la résurrection de Jésus, dans son règne, dans son ascension, dans son règne. Et on découvre ici qu'on doit justement le saisir, parce que c'est le salut, c'est ce qu'il a accompli pour nous, et c'est ce à quoi nous sommes associés. Il y a eu synchronisation avec Jésus. Et remarquez que le temps n'est pas au futur comme si ça allait venir. C'est au passé, c'est déjà fait. Ils sont déjà unis à Christ dans sa résurrection, dans son ascension, dans son règne, les croyants. Et ils sont appelés à vivre de cette réalité. Même si c'est vrai, au verset 7, on voit qu'il y a une pleine manifestation qui doit venir encore. Dès aujourd'hui, on peut vivre dans cette réalité. Et ce qui est dit ici est crucial pour la foi chrétienne. Si on devait vous poser la question, est-ce que vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous répondriez? J'essaie de l'être, je fais de mon mieux, j'essaie de faire du bien autour de moi, j'essaie d'aller à l'église le plus souvent possible, j'essaie de prier. Ou alors, certains jours, je sens que je suis chrétien, d'autres jours, j'en suis pas sûr. Mais ça ne colle pas avec ce que dit l'apôtre Paul ici. C'est une action faite une fois pour toutes. On est soit mort ou on est soit vivant. On est soit esclave ou alors on est assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes au bénéfice d'une synchronisation avec lui et ce ne sont pas nos œuvres, mais ses œuvres à lui. Et c'est ce qui fait toute la différence. On le voit dans la vie des Éphésiens. C'est intéressant, toutes les références à la puissance dans cette lettre. Et quand on regarde un peu le livre des Actes, on voit que c'était une réalité pour eux. On lit l'impact de l'évangile à Éphèse dans le chapitre 19, versets 19 à 20. Après un enseignement systématique de l'apôtre Paul, pendant près de 3 ans, écoutez le constat. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima que la valeur était de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Dans une région comme celle-là, vous pouvez imaginer le genre de crainte et de dépendance que tout le monde connaissait. Mais par l'impact de la parole, une plus grande puissance est à l'œuvre. Une puissance qui a été à l'œuvre en Christ. Ils ayant été associés et ils peuvent vivre de cette vérité qu'ils étaient morts, maintenant ils sont vivants. Ils étaient esclaves, ils sont maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cette assurance-là pourrait faire dans votre vie, dans ma vie? Est-ce qu'elle pourrait nous libérer de la peur de l'échec, de la peur de l'avenir? Est-ce qu'elle pourrait nous libérer de la peur de la critique? Est-ce qu'elle pourrait nous libérer de toutes les colères et de nous donner une assurance et une sécurité? L'apôtre Paul en est convaincu et il va montrer les conséquences de ces vérités dans la deuxième partie de sa lettre. Parce que je sais que je suis uni à Christ, je peux vivre différemment. En conséquent, dans les versets 8 à 10, c'est pour terminer. On a dit quelques réponses possibles à la question si on vous demandait « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Et ça sonne humble de dire « J'essaie de faire de mon mieux. J'essaie. Parfois, j'ai le sentiment de l'être. Parfois pas. » Ça sonne humble, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec l'humilité qui est présentée ici. Au verset 8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Quel est le mot-clé? C'est le mot grâce, n'est-ce pas? Et ce que les exégètes relèvent ici, c'est que même la foi en Christ est une grâce, un cadeau. Même la foi. On présente parfois le salut chrétien comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il a nagé pendant des heures. Et au bout d'un certain temps, une corde est lancée, il s'accroche à la corde, on le tire et il est sauvé. Mais ce n'est pas ce qui est décrit ici. On jette la corde à un corps qui est sans vie et qui n'a aucun moyen de la saisir, cette corde. Ce salut dont il est question, il nous échappait complètement, totalement. Pas la moindre parcelle de potentiel en nous. C'était la mort, c'était l'esclavage, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucune raison de faire le fier, de se vanter de quoi que ce soit. Et même la foi en Jésus est un don qui nous est donné. Et toute la vie chrétienne sera faite d'un retour à cette vérité-là. C'est frappant quand on y pense. On a ici une des églises les plus enseignées par l'apôtre Paul. Il peut dire dans le livre des Actes qu'il aura enseigné tout le conseil de Dieu. Il y a cette allusion régulière à la puissance, et il y avait effectivement des puissances à l'œuvre là-bas. On a une des lettres les plus profondes du Nouveau Testament. On pourrait imaginer le secret d'une puissance, une vitesse supérieure pour eux, non? C'est le rappel de ce que Christ a fait pour eux, une fois pour toutes, et d'une synchronisation avec Christ, une fois pour toutes. Maintenant, il y en a peut-être qui se disent « trop facile ». Ça voudrait dire qu'en fait, j'ai cette sécurité une fois en Jésus, et à partir de là, quelqu'un pourrait vivre comme il veut. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais nous avons été créés en Jésus pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et dans notre manière de parler des autres, et dans notre manière de faire de l'humour, et dans notre manière de voir nos engagements, dans la manière de parler de notre vie, de ce qui est important dans notre vie, ça va se refléter. Tout doit être imprégné de cette vérité accomplie une fois pour toutes par Jésus, par sa grâce. Et tout va dire la grandeur de cette grâce. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons célébrer la gloire de ta grâce et nous te remercions de nous rappeler constamment où nous étions, ce que nous étions sans Christ. Merci aussi de nous rappeler que c'est ton œuvre qui a été accomplie en Jésus et à laquelle nous avons été unis. Permets-nous, Père, d'être imprégnés de ces vérités pour que nous puissions vivre différemment, vivre ces œuvres auxquelles tu nous as appelés. C'est ton désir que nous vivions sous la royauté de Christ, c'est notre désir aussi par ta grâce. Et nous te prions que par ta puissance, nous puissions le vivre. Au nom de Jésus. Amen.